Le magazine Femina de VOA Afrique.
Si seulement je vais me renvoyer la fille à l'école, la famille déjà les marques. Elles sont ça la jeune. Qui va m'aider? Pardon.
Hillary Clinton aurait pu devenir la première femme présidente des États-Unis. Quelle leçon pour les politiciennes africaines? C'est la question qui vous a été posée, chères auditrices, chers auditeurs, sur le Facebook de VOA Afrique. J'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge avec vous pour le magazine au féminin, en compagnie de Nanit Talani, ma collègue, qui est également juriste en droit international, il me semble, Nanit.
Oui, exact, ouais. Nathalie.
Merci beaucoup d'être avec nous.
De rien. Bonjour à tous.
Nous avons également en ligne Daouda Dia, qui est en Guinée, donc qui est un auditeur de VOA Afrique. Bonsoir, comment allez-vous, Daouda?
Oui, je vais bien, madame. Et vous?
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, on vous appelle parce que vous auriez quelque chose à dire, n'est-ce pas, sur cette fameuse élection américaine. On vous écoute.
Oui, madame, vraiment, je salue tous les auditeurs de la VOA.
Merci beaucoup.
Bon, concernant l'élection présidentielle américaine qui vient d'être passée, vraiment, madame, ça a surpris tout le monde, plus précisément l'Afrique. Parce que vraiment, tout le monde, si le monde votait, Hillary allait passer demain hier comme président de la République des États-Unis. Mais malheureusement, comme l'homme propose deux discours, la nature s'impose. C'est pour cela, avant-hier, moi, j'ai envoyé l'espoir de l'Afrique et que Hillary remporte cette élection. Comme l'Afrique ne votait pas plus précisément le monde, comme les Américains ont décidé de Donald Trump, bon.
Voilà, c'est la démocratie.
Non,
hein.
Oui.
Alors, en effet, nombre de femmes misaient sur une victoire d'Hillary Clinton à la présidentielle américaine, étant donné sa lutte pour les droits des femmes, surtout. Donc là on parle des femmes consciencieuses, hein, des véritables militantes dans l'âme elles-mêmes. Nanit, qu'est-ce que vous pensez de cela, finalement? Parce que l'on sait que dans les sondages, il y a eu 54% de femmes qui ont voté pour Hillary Clinton et 42% qui ont voté pour Donald Trump. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Oui, ben... bon, comme vous venez de dire, madame, si, parce que, bon, on a vu c'est Donald Trump est le 45e président des États-Unis, bon, pas de femmes, ils ont tous des hommes, bon, tout le monde voulait qu'on voit une femme à la tête des États-Unis, parce que vraiment, comme Hillary, au moment que son mari était aux affaires, on les a vus. En même temps, elle était secrétaire d'État à la Maison-Blanche. Les actes qu'elle a posés, c'est pour cela. Ce n'est même pas les femmes seulement. C'est presque le monde qui le soutenait à travers ses actes. Bon, même en Guinée, c'était comme il y a eu des déchets. Tout le monde était frustré. Il n'y a pas de joie un peu partout. Mais on n'a pas soutenu parce que les femmes, c'est à travers ses convictions et ses actes qu'elle a posés au moment qu'elle était première dame, en même temps secrétaire d'État à la présidence.
Merci beaucoup, Daouda. Avant de prendre un autre auditeur, je voudrais donc reposer la question à Nanit sur ces fameux pourcentages. Selon vous, pourquoi autant de femmes ont voté pour Donald Trump malgré tous ces propos sexistes, machistes, hein, des propos controversés d'ailleurs sur les femmes?
Ben, pour moi, je vois deux raisons. La première, c'est que d'abord, ces femmes sont des républicaines. Donc, pour elles, bon, est-ce qu'on peut parler du fanatisme? Peut-être un fanatisme positif, dans le sens où elles ont voulu rester fidèles au candidat de leur parti. Elles n'ont pas voulu voter Hillary simplement parce que c'est une femme comme elle. Elles ont voulu voter le candidat de leur parti parce qu'elles veulent rester attachées à leurs convictions politiques. Donc ça, c'est déjà un point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi le programme qu'il a présenté par rapport à Donald Trump. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Donald Trump ou sur Hillary. Et ce sont toutes ces choses-là qui ont décidé certaines personnes à voter soit pour Hillary, soit pour Donald Trump. Donc si Hillary n'a pas pu convaincre les gens, c'est pas parce qu'elle est une femme que ces femmes allaient la voter. Donc il fallait qu'elle soit plus convaincante. Et puis, peut-être beaucoup plus déterminée qu'elle a un programme qui allait attirer les femmes, qui allait les convaincre de changer peut-être de camp.
Elle avait quand même, si on compare Donald Trump et Hillary Clinton, programme en ce qui concerne les femmes, Hillary Clinton, elle a beaucoup mis l'accent là-dessus, sur la femme, la famille, et alors que Donald Trump, il n'en a pas du tout parlé.
Mais voilà, mais il se peut que ces femmes n'aient pas été intéressées par ce point.
Oui.
Parce qu'en fait, ce qui a convaincu les gens de voter pour Donald Trump, c'est qu'il a dit ce que les Américains voulaient écouter. Et ces femmes sont avant tout des Américaines. Donc, elles ont été beaucoup plus attirées par le discours de Donald Trump qui leur a dit ce que les Américains veulent écouter par rapport à Hillary Clinton. Et en plus, peut-être qu'elles font aussi partie des personnes qui veulent faire comme une rupture. Au lieu de toujours trouver des gens qui ont de l'expérience politique, qui vont s'inscrire dans la même lignée que les prédécesseurs, c'est ce que se sont dit. Bon, cette fois, on va avoir peut-être quelqu'un qui n'a pas d'expérience, une personne qui est partie de nulle part, qui a su s'imposer, et puis on verra ce que ça va donner. Ces gens n'ont pas voulu suivre la tradition habituelle.
Mmh. Alors, effectivement, on parle beaucoup de l'alternance. C'est ça la démocratie aussi, hein, aux États-Unis. Les États-Unis sont célèbres pour ça. L'alternance politique, n'est-ce pas? démocrate républicain, c'est assez rythmé au fil des ans et en plus ça se fait naturellement.
Mais seulement Nathalie, mais cette fois-ci c'est une alternance même au sein des républicains parce que Donald Trump, même tu vois, même dans son parti, personne ne croyait en lui.
Et il a quasiment pas eu de militants qui ont milité pour lui.
Non.
Si on compare à Hillary Clinton.
À Hillary Clinton.
Donc en fait, on peut parler d'un gros échec parce que Hillary Clinton, elle a fait énormément dans sa campagne, hein. Les porte-à-porte, etc. On le voyait même dans la rue, c'était très 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 présent, hein.
Oui, oui. Par rapport à ça, on pourrait dire un échec, mais c'est aussi par rapport.
Bon, elle a eu la majorité du vote populaire, hein. Il faut quand même le rappeler. Ça, c'est un petit détail, mais d'importance.
Oui. C'est un petit détail, mais qui est très déterminant, parce que le vote populaire lui a été favorable, mais pas le vote des grands électeurs.
Donc en fait, en gros, si on explique aux auditeurs, avec le système américain bien particulier, c'est elle qui a eu le plus, elle a eu même 200 000 voix de plus que Donald Trump. Mais selon le système donc, des grands électeurs par État, en fait, Donald Trump a eu plus de grands électeurs et ce sont eux qui vont donner la victoire
à l'un des deux candidats. Mm-hmm. Exactement.
Donc ça, c'est la constitution américaine et visiblement, enfin, il y a quand même pas mal d'experts qui critiquent un petit peu ça, disant que c'est pas un système direct et genre une personne, une voix. C'est le système démocratique
Nathalie,
même.
Ouais. Imagine que 10 personnes ne valent rien par rapport à toi qui représente juste une voix. C'est pas quand même
normal.
Oui,
mais il s'est passé exactement la même chose avec Bush et Al Gore.
Oui.
Hein? C'est le système américain et les gens l'acceptent comme ça, mais c'est pas dit qu'un jour il sera peut-être pas mis en cause. Moi, je voudrais vous lire un petit passage que j'ai relevé sur le magazine en ligne ZFR qui disait lors des primaires. Nul homme ou femme politique n'a connu autant d'attaques personnelles et politiques, hein, en parlant d'Hillary Clinton. Les médias de droite, mais aussi progressistes, scrutent Hillary Clinton avec méfiance jusqu'à la calomnie la plus basse. Ses détracteurs ont ruiné ses espoirs en 2007 alors qu'elle était en tête des sondages et connaissait particulièrement les arcanes du pouvoir. Mais elle n'est pas dupe, elle sait qu'elle se balade avec une cible dans le dos. Elle sait qu'elle doit gagner cette guerre de l'image. Bon.
Oui, c'est vraiment vrai aussi, intéressant c'est vrai. Parce que je me dis qu'elle a perdu, mais c'est aussi une victoire du moment qu'elle est la première femme à en arriver là aux États-Unis. Je me dis que c'est une grande victoire. Qui aurait cru qu'une femme aurait été candidate à l'élection présidentielle aux États-Unis ? Le
45e, il y a quand même eu 45 présidents.
Oui, quand même. Là, nous sommes au 45e président. Donc, je me dis que c'est une victoire, que les femmes commencent un peu à se réveiller.
Peut-être que ça va éveiller la conscience de manière inverse finalement, parce que c'est une tellement grosse déception pour beaucoup de femmes finalement qu'elles vont peut-être se mettre à militer,
oui,
celles qui ne militaient
voilà,
pas en tout cas.
Exactement, ouais. Et si un jour il y avait encore une candidate, donc une femme, je me dis qu'elles vont peut-être voir pourquoi Hillary a échoué. Et donc, son exemple pourrait servir de beaucoup pour celles qui viendront, pour celles qui voudront s'engager dans la même voie qu'Hillary Clinton.
Parole de femme.
Voilà, alors justement, j'ai parlé à Marie-Madeleine Nkwe, la présidente de la Commission électorale centrafricaine, l'autorité nationale électorale, donc qui est actuellement aux États-Unis et qui était là pour observer les élections américaines. Il faut savoir qu'il y a plein d'observateurs, comme dans tous les pays, comme en Afrique, qui observent les élections également aux États-Unis. Alors voilà, je lui ai posé quelques questions. D'abord, sa réaction finalement sur l'issue de ce scrutin, on l'écoute.
En tant que femme, je suis déçue, bien que ça ne me concerne pas beaucoup, mais je suis déçue parce que j'attendais vraiment que Hillary puisse passer, mais elle va continuer le travail. Ça ne s'arrête pas avec elle. Donc le travail doit continuer avec tous les groupes de femmes qui l'ont appuyée et puis surtout que les idées continuent à être passées.
Et quelles leçons finalement tirer pour les femmes politiciennes en Afrique?
Bon, même le plus grand pays de démocratie n'a pas pu briser les barrières. Donc, nous savons qu'il y a du chemin à faire, mais nous allons continuer à nous battre comme les Américaines doivent continuer à se battre. On aurait aimé avoir cet exemple-là pour nous booster en Afrique.
Est-ce que, au sein de votre travail, vous incitez à la parité, aux femmes à se présenter en tant qu'électeurs et en tant que candidates?
On a essayé de faire cela durant le processus électoral finissant, là, de faire des sensibilisations ciblées pour qu'il y ait des femmes candidates et surtout des femmes électrices, parce que la femme, en général, elle ne s'intéresse pas beaucoup à ça, à part les femmes qui sont dans les partis politiques, et même celles-là sont relayées à un certain rang. Mais nous avons quand même essayé de faire des ateliers avec ONU Femmes notamment pour les inciter, leur donner les stratégies et les outils nécessaires à se présenter et puis pour les inciter à aller au vote.
Vous avez organisé des élections présidentielles législatives dans un pays au sortir d'un conflit armé avec des personnes déplacées. Est-ce que cela a été un grand défi pour vous ?
Ah, ça, c'était vraiment un grand défi. Il y a eu des hommes avant moi qui ont démissionné. Et j'étais femme en même temps que la présidente de transition était femme. Donc, les défis, parce qu'il y avait des corollaires. Et quand il y avait des manquements quelque part, on faisait la similitude entre nous deux. Donc, il y avait des défis terribles pour concilier le politique, la technique, les aspects sécuritaires et tout ça pour arriver à ces élections. Et il y avait de très grands défis. Et en tant que femme, si je ne réussissais pas, c'était toutes les femmes qui étaient concernées. C'était un challenge terrible.
Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été bien entourée dans votre travail ou est-ce que vous avez des petits exemples où on vous aurait un petit peu poussée vers la sortie parce que vous êtes une femme ?
Non, j'étais bien entourée. Comme c'était des élections de sortie de crise, il n'y avait pas de parti au pouvoir. J'étais bien entourée par la communauté internationale. Nous avons tenu nos exigences techniques. Voilà, nous sommes arrivés à faire ces élections.
À propos de technique, donc, vous êtes aux États-Unis à l'heure où nous parlons. Vous avez été observatrice des élections. Qu'est-ce que vous auriez à dire donc, sur ces élections en tant qu'observatrice?
Quand on vient ici, on s'attend à ce que tout soit parfait. Mais on a remarqué quelques difficultés, quelques boulets d'étranglement, quelques manquements quelque part, voilà, où il y a des bureaux où il n'y a pas assez de machines. Bon, on a constaté ça. Mais ce qui est là, c'est que tout le monde a confiance au système électoral américain et bien qu'il y ait des files, par exemple des files d'attente énormes pour arriver à voter, les gens n'ont pas décrié cela. Alors qu'en Afrique, on aurait pu c'était un élément pour bloquer le processus électoral. Mais ce que j'ai salué ici, c'est vraiment la confiance au système électoral.
Est-ce que vous auriez des exemples à retenir, notamment des enseignements, justement en matière de fiabilité, pour éviter la fraude, pour assurer la transparence?
Absolument, absolument, il y en a beaucoup. L'exemple que j'ai vu, c'est que pour les agents qui travaillent dans les bureaux de vote, on n'a pas tenu compte des partis. C'est des recrutements jusqu'au niveau des mineurs pour pouvoir assurer cela. Ça, il faudrait arriver à faire passer en Afrique parce que c'est des suspicions, c'est des choses qu'on voudrait vraiment répliquer.
Voilà, c'était donc la présidente de l'Autorité nationale électorale de la Centrafrique, Marie-Madeleine Nkoué. Avant de prendre Youssouf, un auditeur en ligne, je voudrais citer le propos de Abdelaziz Harouna qui a dit sur Facebook « Les politiciennes africaines se minimisent, elles doivent savoir qu'elles ont beaucoup de potentialité. Moi, je pense qu'avec les femmes, il y a plus de transparence. » Donc, on essaie de le joindre, Abdelaziz Harouna. On a Youssouf en ligne. Youssouf, comment ça va?
Oui, ça va bien, VOA Afrique. Je pense que un peu sous le choc, mais on tient quand même.
Alors, on vous écoute.
Alors, ça a été vraiment l'onde de choc, un cataclysme inattendu pour un pays vraiment débuté comme les États-Unis face à deux candidats hors pair, si j'ose dire. Ah, c'est en cela que moi je résume la bouleversante victoire du républicain Donald Trump qui a eu l'effet de bombe dans un monde surpris par cette victoire de l'arrogance, du mépris, de la haine débordante, les insultes de tous gens, ils en passent. Et moi, je dis que même si Hillary Clinton perd cette élection, cette victoire de la tromperie de M. Trump remet clairement en cause les orientations politiques, économiques, sociales et très stratégiques auxquelles obéit les sondages après la surprise victoire du Brexit. Parce qu'on se rappelle que même au Royaume-Uni, les sondages avaient prédit clairement une victoire du non. Aux États-Unis, il y avait un avantage assez net pour Hillary Clinton pour battre Donald Trump, mais à la surprise générale, ça a été tout aussi le contraire. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, évidemment, on peut être déçu parce que même moi, de mon jeune âge, jamais dans ma vie, je n'ai vu quelqu'un qui a osé défier tout le monde entier de son propre pays à toutes les chancellerie, mais arriver à battre la démocrate Hillary Clinton bien avant qu'il faut. Je pense qu'il serait quand même vital que la souveraineté du peuple américain soit respectée. Mais encore une fois, je dis que Hillary Clinton a manqué vraiment l'occasion de révolutionner les choses aux États-Unis, incarner le combat de la jeune féminine
voilà,
même à travers le monde entier, que ce soit au Libéria, que ce soit en Centrafrique, bientôt partout. Je pense que je partage aussi la déception de la présidente libérienne qui, malgré tout, est encore sous le choc. Et j'ai dit que le travail doit toujours continuer parce que quand on voit les divisions que crée ou qui a créé Donald Trump au sein du Parti républicain, face à l'unité qu'incarne Hillary Clinton au sein du camp démocrate, il est à parier que cette gouvernance, même avec la Chambre des représentants, même avec le Sénat, dans la main des républicains, il est fort à parier qu'il y ait des divergences d'opinion dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir. Et il faut suivre cela avec beaucoup d'attention.
Absolument.
Avec un candidat, même élu président des États-Unis, qui manque encore un programme assez fiable.
Merci beaucoup, Youssouf.
Qui est la clé fondamentale de la gouvernance aux États-Unis, vu le lobbying du Pentagone et tout.
Un grand merci Youssouf pour votre point de vue. Alors je voudrais citer également un point de vue de Bertica Cabrera, qui est une consultante républicaine en fait, qui a travaillé pour Donald Trump. Hein. Elle est très connue, elle a fait beaucoup de discours. J'ai retrouvé ce propos sur le magazine Elle. Alors elle assure que Donald Trump n'est ni sexiste ni misogyne. Hein. Elle dit n'importe et je voudrais avoir votre réaction après Nanit. Elle dit n'importe quel milliardaire au physique avantageux attire toutes sortes de femmes. Alors, elle dit « Certes, il est brut de décoffrage », ça c'est ses propos. « Je suis mariée depuis 20 ans à un Irlandais très trumpien. Il est aussi dans le bâtiment. Ces hommes-là parlent comme ça entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils agressent les femmes. » Ça, c'est son point de vue.
Non, mais c'est que pour Donald Trump, ça ne s'est pas seulement arrêté au dire. Il y a eu des témoignages. Ce n'est pas parce qu'on peut attirer les femmes qu'on peut les considérer comme des objets, qu'on peut les tripoter comme on fait. Il y a plein de milliardaires, mais pourquoi est-ce que tous ne font pas ça? Je crois que c'est juste une question de conviction. Si vous respectez les femmes, vous n'allez pas profiter de votre pouvoir pour obtenir d'elles tout ce que vous voulez. Mmh. Ouais, donc ouais. Je m'insurge contre cette réaction.
Ouais. Et en fait, il faut savoir que dans les militants républicains, la majorité des militants sont des femmes. Oui. Sont des femmes. Et moi, je voudrais savoir, à votre avis, parce que, bon, elle dit aussi également, rien ne mobilise plus les supportrices de Donald Trump que cette haine viscérale envers Hillary Clinton. Alors, moi, je me demandais un petit peu s'il n'y avait pas femme contre femme, entre femmes républicaines, contre femmes démocrates, mais dans ce sens-là, c'est encore peut-être plus prononcé parce qu'on a un homme aux tendances, on va dire, un peu aux tendances sexistes, on ne peut pas dire le contraire, et on a Hillary Clinton qui est une femme très féministe. Donc, en fait, c'est un petit peu deux pôles, on va dire, opposés.
En fait, Nathalie, je me dis que toutes les investigations que le FBI a faites sur Hillary a beaucoup joué en sa défaveur.
Ça a joué énormément.
Parce que tu vois déjà, une semaine avant les élections, la dernière investigation avait fait baisser les sondages en sa défaveur. C'est là que Donald Trump avait pris le dessus. Donc je crois qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ont commencé à hésiter, à croire en elle. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur elle si vraiment elle n'avait rien fait et tout. Et puis tu vois, il y a eu aussi le scandale avec l'association Clinton. Tu vois, donc il y a eu plein de trucs qui se sont dit, bon, si déjà les finances de son association ne sont pas vraiment bien gérées, bien auditées. Bon, comment est-ce qu'elle pourrait gérer le pays? Moi, je me dis que ces choses ont beaucoup joué en sa défaveur. Tu vois, une semaine avant les élections, on remet en cause beaucoup de choses, la façon dont tu as travaillé pendant que tu étais secrétaire d'État. Les gens se sont dit, mais si pendant qu'elle était secrétaire d'État, elle n'a pas bien travaillé, c'est pas en étant présidente qu'elle va le faire. Donc ça a beaucoup joué en
elle. Et puis ça, c'était la guerre de la campagne. Ça a bien marché, tout ça. Ils savaient exactement l'un et l'autre. Voilà. Exactement, c'est très médiatique, toutes ces choses-là.
Voilà. Et en plus, le problème aussi, c'est que les femmes font partie des minorités. Donc quand tu es une minorité, que tu n'as pas le pouvoir, il faut travailler doublement par rapport aux autres personnes. Parce que les femmes, déjà, les gens ne croient pas en elles. On se dit, ça en fait, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Même les femmes, même les hommes se disent que la place de la femme, c'est d'abord à la maison. Pourquoi est-ce que nous allons donner le pouvoir de présider au destin de notre pays à une femme? Donc, la femme doit travailler dur pour s'imposer.
C'est un pays très conservateur, comme on le dit toujours. C'est ça aussi. Et il y a encore beaucoup de femmes qui pensent comme ça.
Oui, et
aux États-Unis.
Même à travers le monde, ce n'est pas seulement aux États-Unis, à travers le monde, c'est pourquoi on trouve peu de femmes dans les sphères de prise de décision. C'est beaucoup plus les femmes, c'est beaucoup plus les hommes qu'on retrouve, que ça soit. En fait, tu peux faire le sondage, même partout on se trouve, à toutes les sphères de prise de décision, tu verras que la majorité, ce sont des hommes. Pourtant, les femmes aussi ont des capacités de pouvoir occuper les mêmes postes que les hommes, mais on ne leur fait pas confiance, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Donc, est-ce qu'il faudrait dire qu'on doit mettre en exergue la complicité féminine? Ben, peut-être.
Oui, on en est conscient de tout ça, la complicité féminine, forcément, oui. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas féministe, comme on le dit. Et il y a surtout peut-être, ce qu'il faut préciser encore une fois, des gens qui comprennent assez mal le féminisme. Et d'ailleurs, Hillary Clinton avait essayé d'expliquer le féminisme.
C'est pas aussi toujours une question de féminisme, c'est parfois question de changer la donne. Pourquoi ne pas oser? La vie, c'est aussi prendre des risques pour apporter un certain changement, pourvu qu'il soit positif.
Merci beaucoup, Nanit Talani, d'avoir participé dans le magazine au féminin à ce débat. Je voudrais remercier également Solange Niamouliza, sans qui l'interview avec la présidente de l'année en Centrafrique n'aurait pas été possible. Je remercie également Fredner Kayemit. À très bientôt pour un prochain numéro dans le magazine au féminin. Bonsoir à tous.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You're out.
La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que pararear lo que el orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran estil: fíjate que va a llover, y si no puedes correr por el trecho del vestido. La mulata encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que pararear lo que el orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran estilo: fíjate que va a llover, y si no puedes correr por el trecho del vestido. Dame el paso,